Vous écoutez, on lit pour vous.
À quoi ressemble l'école idéale pour les peuples autochtones? Un texte de Gabriel Anctil paru le 4 avril 2024 dans Québec Science. Le système scolaire a longtemps ignoré, voire écrasé, la culture autochtone. Il est temps de laisser la place à une école conçue par et pour les autochtones. Il y a déjà près d'une décennie que la Commission de vérité et réconciliation du Canada a rempli son mandat. Fondée dans le but d'informer la population canadienne sur ce qui s'est passé dans les pensionnats pour autochtones, la Commission a recueilli pendant plusieurs années des témoignages horrifiants venus des quatre coins du pays. Les pensionnats avaient pour but de séparer les enfants autochtones de leurs familles afin de limiter et d'affaiblir les liens familiaux et culturels, est-il écrit dans la préface du rapport final. Nul n'est besoin de rappeler les détails des violences qu'ont vécues les jeunes autochtones dans ces écoles, dont la dernière a mis la clé sous la porte en 1996. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que la Commission ait accordé une place importante à l'éducation dans sa liste de recommandations. Y sont notamment mentionnés les besoins en financement, mais aussi l'importance d'offrir aux jeunes des programmes d'études adaptés à la culture. Afin de poursuivre le processus de réconciliation entamé par cette commission, des équipes de recherche s'intéressent à l'éducation autochtone. Leur but? Concevoir l'école idéale. Constater les lacunes. D'emblée, une nuance s'impose. Devant la diversité des cultures des 11 nations autochtones du Québec, il serait périlleux de parler d'une seule école idéale. Dans les faits, chaque communauté doit imprégner ses lieux d'éducation de ses valeurs et de ses coutumes. Mais avant d'y parvenir, il faudra remettre en question les méthodes actuelles d'enseignement, note Nancy Wiscouti-Crépeau, professeure à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS. Le système scolaire actuel présente des lacunes importantes, car il n'a pas été créé par et pour les Autochtones, souligne-t-elle d'entrée de jeu. Elle cite en exemple la façon dont l'école québécoise divise les savoirs en catégories. On enseigne le français et ensuite les mathématiques. Pour les Autochtones, les connaissances sont plutôt liées entre elles. Cette discordance entre les enseignements offerts et les cultures des élèves a des effets importants. Pour les jeunes, ça crée des enjeux identitaires, car ils ne se reconnaissent pas dans les enseignements et les façons de transmettre les savoirs, relève la chercheuse. Elle aussi, professeure à l'INRS, Marie-Ève Drouin-Gagné constate que cette situation mène les jeunes à vivre des difficultés dans leur parcours scolaire. « Nous avons remarqué que les élèves innous que nous interrogions avaient beaucoup de diagnostics de problèmes d'apprentissage. » Mais les enfants innous ont-ils vraiment tant de troubles? Ou bien le problème est-il qu'ils ne peuvent pas répondre aux attentes du système? Langue et territoire. Comment rétablir l'équilibre? En autochtonisant l'éducation, résume Janice Ottawa, étudiante à la maîtrise à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, UQAT. En fait, il faudrait l'atikamekiser, l'anikinabégiser. Selon elle, la première étape passe par le lieu d'enseignement. Janice Ottawa sait de quoi elle parle. Elle enseigne l'atikamek Nehirowissi à l'école primaire Simon Pénichiche, Ottawa, à Manawan. Quand on emmène les jeunes sur le territoire, les expériences sont plus riches. Ils ont plus de facilité à s'exprimer. En effet, le territoire occupe une position centrale dans l'éducation autochtone. Je parle à des gens qui me disent « c'est dans le bois qu'on parle notre langue », relève Marie-Ève Drouin-Gagné. Le territoire est une source de savoir. Les lieux ont des noms, mais derrière ces noms, on trouve aussi des récits, des histoires. Ainsi, une adaptation du curriculum pour qu'il inclue des concepts appropriés culturellement, notamment la langue, est essentielle. Il demeure tout de même important de préparer les jeunes à la société dominante, explique Nancy Wiscuti-Crépeau. Dans un monde idéal, les enfants autochtones apprendraient les deux cultures. L'école aurait la mission de construire l'identité culturelle des jeunes à partir de leur langue et en relation avec le territoire et les aînés. Mais les élèves devraient aussi découvrir comment fonctionner dans le système dans lequel ils se trouvent par la force des choses. Changer de paradigme. Pour parvenir à cette école idéale, outre le développement d'un cursus scolaire qui fait la part belle aux cultures autochtones, il faudra un meilleur financement des établissements scolaires et une plus grande ouverture d'esprit concernant les méthodes éducatives. Dans l'éducation autochtone, l'enfant apprend par observation, rappelle Benoît Étier, professeur en études autochtones à l'UQAT. Il observe ses aînés, ses parents. Il est ensuite encouragé à expérimenter, à utiliser ses cinq sens. Dans le système québécois, l'enseignant impose la matière à apprendre. De fait, il faudra mieux former le personnel enseignant autochtone, qui représente la majorité des titulaires de classe dans les écoles situées dans les communautés autochtones, selon Nancy Wiscuti-Crépeau. Elle cite en exemple la proposition du Conseil en éducation des Premières Nations qui, en 2020, invitait le ministère de l'Éducation à ajouter au référentiel des compétences qui guident la formation du personnel enseignant celle de valoriser et de promouvoir les savoirs, la vision du monde, la culture et l'histoire des Autochtones. Les enseignants formés actuellement n'ont pas les compétences nécessaires pour mettre en œuvre les principes de vérité et de réconciliation, indique la chercheuse. Ils ont aussi un travail à faire sur eux-mêmes, doivent être conscients de leur position par rapport au colonialisme. Plutôt que de dicter aux nations autochtones un modèle d'éducation, peut-être est-il temps de les laisser modeler celui qui leur convient le mieux. C'était « À quoi ressemble l'école idéale pour les peuples autochtones ?» un texte de Gabriel Anctil paru le 4 avril 2024 dans Québec Science.
Regard sur la condition autochtone. Une chronique d'Étienne Haché, parue le 30 septembre 2023 dans Le Franco en Alberta. Indiens, Amérindiens, Premières Nations, autochtones? Il n'y a pas de réponse parfaite à cette question. Avec 50 nations autochtones totalisant 1,7 million d'habitants répartis dans plus de 600 communautés un peu partout au pays, il est parfois difficile de s'y retrouver. Une chose est sûre, les termes « indien » et « amérindien » sont galvaudés et chargés d'une connotation péjorative. Pour un terme plus englobant, on peut se référer à la terminologie employée par le gouvernement du Canada, article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. Sur le site officiel des relations « Couronne autochtone et affaires du Nord Canada », il est mentionné que le terme « autochtone » désigne les premiers peuples d'Amérique du Nord et leurs descendants. En outre, la Constitution canadienne reconnaît trois groupes de peuples autochtones, les Indiens, les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Si le terme « Premières Nations » est d'usage courant, celui d'Autochtone est reconnu par les Nations unies. De qui parle-t-on? Le domaine de la recherche universitaire connaît toute la difficulté et l'importance d'adopter un lexique approprié. L'investissement du chercheur doit être en adéquation avec les populations. Or, mimétisme et faux-semblants sont des pratiques persistantes. Les études autochtones étant devenues un effet de mode avec les énormes subventions gouvernementales, l'obsession d'une subvention ou encore une pseudo-ascendance autochtone nuisent au milieu de la recherche. La terminologie contribue également à une meilleure compréhension de la culture autochtone. Hélas, cela ne suffit pas à vaincre tous les stéréotypes qui sont ancrés et renforcés par la croyance que nous sommes uniques. Malgré les efforts des chercheurs et les politiques publiques déployées durant des décennies pour promouvoir la culture autochtone, incluant des initiatives locales comme les powwows, qui offrent un temps pour le croisement des cultures, force est de constater que les Autochtones sont encore victimes d'injustices et d'exclusions. Nous défendons des valeurs individualistes, ce qui explique que nous n'avons pas toujours d'intérêt pour des pratiques ancestrales. Et s'il nous arrive, par-delà les clivages linguistiques et politiques, de défendre des projets communs, jamais nous ne voyons dans la culture autochtone une sagesse capable de contribuer à notre identité. Avouons que cette attitude est non seulement étrange, mais la preuve d'un esprit franchement ignorant. Mea culpa. Faut-il entrer sur un terrain glissant comme celui des restes d'enfants trouvés sur l'ancien site du pensionnat de Kamloops, de faire le procès des écoles résidentielles, de régler des comptes avec l'Église catholique ou de rappeler les nombreuses femmes autochtones disparues? L'amnésie dont souffre notre si grand pays fut suffisamment décriée par les médias étrangers, européens et américains, se délectèrent en effet entre le printemps 2021 et la visite papale en juillet 2022. Qu'on le veuille ou non, nous sommes les héritiers d'une civilisation traversée par des tragédies et des atrocités, dont certaines honteusement commises au nom de la foi chrétienne. Cela ne nous honore aucunement. Nous devons néanmoins assumer cette portion douloureuse de notre histoire. Les peuples autochtones n'ont que faire de nos états d'âme et règlements de compte. Cela vaut également pour celles et ceux portés à faire table rase de l'héritage chrétien. Ce n'est pas ce que souhaitent les Autochtones. Mais ils ne veulent pas non plus d'arrangements de circonstances. Il ne suffit pas d'espérer des relations nouvelles avec des Premières Nations. Il faut également démontrer comment c'est possible. Les repentances, les excuses et les réparations sont nécessaires. Un pas fut fait dans cette direction, mais comme le laissa entendre le premier ministre Justin Trudeau devant la Chambre des communes le 1er juin 2021, s'excuser n'est pas suffisant. Nous devons donc progresser par un dialogue franc et sincère. Vous écoutez « Regard sur la condition autochtone », une chronique d'Étienne Haché, parue le 30 septembre 2023 dans le Franco, en Alberta. Au pays du multiculturalisme. Un fait demeure qui explique le degré d'affliction du pape François lors de sa dernière visite au Canada. La dignité des peuples autochtones n'est pas reconnue. Cela tient sans doute au passé colonial du pays, mais aussi à notre existence politique, qui ne leur laisse que très peu de place au sein de la Fédération canadienne. Par exemple, le multiculturalisme, version moderne du cosmopolitisme stoïcien et du pluralisme chrétien qui, en quelques décennies à peine, a complètement transformé le pays en une mosaïque culturelle. Nous en sommes fiers, avec raison. Rien n'est moins sûr, en revanche, que l'identité autochtone y trouve son compte. Un défaut apparent du multiculturalisme qui taraude en permanence l'identité canadienne vient du fait que nous estimons toujours possible d'embrasser de grandes ambitions universalistes entièrement nouvelles, alors que d'anciens problèmes nationaux, tels que la condition autochtone, ne sont toujours pas résolus. Cette contradiction serait parfaitement normale si seulement nous pouvions l'assumer, mais c'est bien loin d'être le cas. En témoigne la commission Laurando-Dunton en 1963, qui conclut à l'existence de deux sociétés distinctes, dont le Québec. Or, non seulement cette commission n'a pas fait de place aux peuples autochtones, mais les lieutenants québécois de Lester B. Pearson, profondément antinationalistes, Pierre Trudeau, Jean Marchand et Gérard Pelletier, ignorèrent complètement les recommandations de peuples fondateurs au profit du bilinguisme et du multiculturalisme. Si bien qu'entre 1970 et 1990, la politique canadienne a tourné essentiellement autour de ces enjeux. Celles et ceux qui, comme moi, étudiaient en sciences politiques au début des années 1990 découvraient ad nauseam que le pays était finalement composé de deux solitudes. Des années décisives. En consultant mes anciennes notes de cours en système politique canadien et en études du fédéralisme, je n'ai pas de trace que la condition autochtone fût abordée une seule fois. Rien de nouveau avec l'accord du lac Meech, 1987, qui se voulait une réponse du conservateur Brian Mulroney au rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne en mai 1982, sans l'adhésion du Québec. L'histoire retient qu'Elijah Harper, député à l'Assemblée législative du Manitoba, a fait échouer l'accord. Qui se souvient du discrédit jeté sur cet homme d'origine autochtone, au caractère tenace, soucieux de défendre la voix de son peuple? Très peu de gens, mis à part les constitutionnalistes et les commentateurs politiques. Par comparaison, Clyde Wells, alors premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, fut une vraie vedette nationale. Les années qui suivirent l'adoption de la loi constitutionnelle de 1982 donnèrent lieu à une série de conférences des premiers ministres afin d'identifier et définir les droits ancestraux et issus de traités. Mais l'Assemblée des Premières Nations n'a pu tenir une position unifiée face aux deux ordres de gouvernement, notamment à cause des 11 traités numérotés signés par certaines nations avec l'État canadien entre 1871 et 1921. Quant à la modification de la loi sur les Indiens, 1985, elle n'apporta aucun gain notable aux Autochtones. J'ai le souvenir de ces conférences qui étaient télédiffusées, où les chefs des Premières Nations, David Ahenakew en tête, habillés en tenue traditionnelle avec le tambour et le calumet de la paix, imposèrent la mélopée, la prière. Arrivé en retard à la conférence et visiblement très agacé par ce cérémonial, le cartésien premier ministre Pierre Elliott Trudeau, fils d'ancêtre catholique irlandais et formé par les jésuites au Collège Brébeuf, dut pourtant s'y résoudre. D'ailleurs, lui-même se mit par la suite à réciter à haute voix le « Notre Père » et le « Gloire soit au Père ». La même question de l'autonomie gouvernementale des Premières Nations refera surface en 1992, mais l'espoir ne sera que de courte durée. Le référendum sur l'accord de Charlottetown, destiné au renouvellement de la Constitution canadienne, sera rejeté par une majorité de Canadiens. Une pensée autochtone recentrée. Pauvreté, alcoolisme, violence, suicide sont les autres tristes réalités qui gangrènent de l'intérieur les populations autochtones. La crise d'Oka en 1990 et celle d'Hyperwash en 1995 peuvent être considérées comme un reflet de ces difficultés socio-économiques, CF la commission Erasmus Dussault 1996. Ce qui incitera, à partir des années 2000, parallèlement à la question de l'autonomie et de la gouvernance, à un recentrement sur le bien-être et le développement de la part des instances directrices des Premières Nations, dont la légitimité sera par ailleurs ternie par des accusations de collusion avec la GRC. Ce recentrement, réveil, conduira tout d'abord à l'accord de Kelowna en 2005. Certes, les conservateurs fédéraux reverront à la baisse l'engagement financier promis par les libéraux de Paul Martin, mais l'esprit de cet accord résonnera dans le règlement relatif aux pensionnats 2006, ainsi que dans la Commission de vérité et réconciliation 2008. Il imprégnera également le mouvement Idle No More 2012 contre le projet de loi Omnibus C-45 du gouvernement de Stephen Harper. Un peuple, une communauté, une nation qui veut exister se projette dans l'avenir en regardant son passé. C'est l'autre effet positif du recentrement des instances directrices autochtones. Reste à savoir comment les enfants autochtones, qui sont les plus défavorisés au Canada, CF, le rapport vers la justice 2019, seront priorisés. Là me semble la clé du devenir des peuples autochtones. Le retour sur le sentier de la reconnaissance, de la prospérité, de l'autonomie et de la dignité dont parle si bien Daniel L. Paul dans son livre sur l'histoire des Premières Nations au sous-titre assez révélateur « Ce n'était pas nous, les sauvages » 2020-1993. Cette priorité, la petite enfance, les Autochtones détiennent le plus haut taux de natalité au pays, touche aussi bien la santé, l'économie, que l'histoire et l'éducation. Au fait, qui garde en mémoire que Canada est un nom iroquois? C'était « Regard sur la condition autochtone », une chronique d'Étienne Haché, parue le 30 septembre 2023 dans Le Franco, en Alberta.
En juin, je lis Autochtone, fiction, 10 suggestions de lecture parues en juin 2024 dans le carnet Je lis Autochtone. 1. Charlie Muskrat, par Harold Johnson, traduction Daniel Grenier, chez Édition Aninorak. Partez en road trip de chasse avec Charlie Muskrat à bord de son pick-up Tonnerre. En cours de route, vous rencontrerez bon nombre d'autostoppeurs, mangerez des crottes de fromage Cheesies et entendrez les histoires de Charlie ainsi qu'une foule de mythes et légendes. Serez-vous du voyage? 2. 5 petits Indiens, par Michel Good, traduction Isabelle Maillet, paru chez Seuil. East Vancouver, fin des années 1960. 5 survivants des pensionnats autochtones au Canada tentent de retrouver une vie normale qui semble si lointaine après leur traumatisme commun. 3. Des glaçons comme du verre, par Isabelle Picard, chez Flammarion, Québec. Avec sensibilité, pudeur et luminosité, Isabelle Picard aborde la rafle des années 60 dans son premier roman pour adultes. Cette histoire est grandement inspirée de la vie de ses grands-parents qui ont eu 10 enfants, ont traversé la maladie et ont tout fait pour pouvoir garder leur famille réunie. 4. Les femmes Stranger, par Katharina Vermette, traduction Mélissa Véro, paru chez Québec Amérique. Un roman poignant où la résistance et la résilience sont mises de l'avant à travers des personnages féminins touchants et profondément humains. Phoenix, Cedar, Elsie et Margaret nous livrent des récits portant les blessures du colonialisme, mais aussi un espoir lumineux. On s'attache rapidement à ces femmes Stranger et aux histoires qu'elles transmettent. 5. La sentence, par Louise Erdrich, traduction Sarah Gersel, paru chez Albin Michel. Un nouveau roman pour Louise Erdrich, qui a remporté un Pulitzer en 2021 pour Celui qui veille. Dans La sentence, gagnant du prix Femina dans la catégorie roman étranger en 2023, une ancienne détenue autochtone devient libraire à sa sortie de prison. Elle remarque toutefois d'étranges phénomènes qui l'amènent à croire que la librairie est hantée par une ancienne cliente. 6. La septième sorcière, par Terry DeMolin, traduction Paul Gagné, paru chez Boréal. Un roman fantastique et féministe qui prône la solidarité entre femmes? C'est oui. Nina Good cherche les sept sorcières qui deviendront l'élite au pouvoir afin d'influencer la politique, les affaires et les arts. Parmi celles-ci, la jeune orpheline Lockie St. James vivra une foule d'aventures pour protéger les siennes et trouver la septième sorcière. 7. La vallée de l'étrange, par J.D. Curtness, chez L'Instant Même. Dans cette dystopie, l'humain a créé des robots aux allures d'enfants qui, dans leur rôle de compagnons de vie, développent des compétences et des traits de plus en plus humains. Cela créera beaucoup de remous, si bien que des militants finiront par les abolir. L'un des petits humanoïdes, toutefois, s'évadera dans la forêt. Technologie et nature se côtoieront alors, tout comme la bonté et la cruauté des hommes. 8. Les Indiens s'amusent, par Thomas King, traduction Catherine Ego, paru chez Mémoire d'Ancrier. Dans ce récit qui allie humour et profondeur, un couple de personnes âgées autochtones quitte le Canada pour un voyage en Europe. Le duo part ainsi sur les traces d'un vieil oncle disparu il y a plus de 100 ans. 9. Possiblement Ruby, par Lisa Bird Wilson, traduction Felicia Mihaly, paru chez Hashtag. À la séparation de ses parents adoptifs, Ruby part à la recherche de ses racines autochtones dans une grande quête identitaire qui ne se fera pas sans heurts. Les sauts dans le temps et les changements de perspective presque imperceptibles, les détails délicieusement choisis, les dialogues naturels et la maîtrise parfaite des émotions font de ce roman une œuvre complexe et achevée. 10. Kimik, par Michel Jean, paru chez Libre Expression. Dans ce roman poignant, l'auteur nous plonge dans l'atmosphère glacée du Nunavik grâce à un jeune couple inuit nomade qui vit au gré des saisons, en compagnie d'indispensables et fidèles chiens de traîneau. Bien des années plus tard, une avocate est mandatée pour se rendre sur la côte nord pour défendre un Inuk accusé d'avoir tué des policiers à la retraite. C'était En juin, je lis autochtone, fiction. 10 suggestions de lecture parues en juin 2024 dans le carnet Je lis autochtone.